Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, L'inconnu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRB. Matin-là, Adrien Lorieux, d'un coup, lui vint à l'esprit. Tous mes écrits sont rangés dans la cave. Ils risquent d'être oubliés, ou pire, être pris pour de vieux papiers. Toutes mes années de travail risquent d'être anéanties, balayées. Je dois les ranger, les mettre dans ma maison de campagne. Oui, c'est cela. Alors, une fièvre folle le prend. À peine a-t-il fini son petit déjeuner, à la cuisine, qui quitte son appartement en prenant les clés de la cave. Prend l'ascenseur et descend jusqu'au sous-sol, puis il sort de l'ascenseur et longe un couloir. J'ai oublié d'amener une lampe, mais je sais où ça se trouve. Il ouvre la porte de la cave. Entre. Laisse ouverte la porte pour avoir de la lumière du couloir. C'est sur ce casier-là. Sur une rangée se trouvent plusieurs piles de feuilles. Je vais être obligé de faire plusieurs voyages. Il en prend une pile et sort de la cave. Et chez lui, il la dépose dans le couloir. Il fait cela 10 fois de suite. À la fin de la matinée, il a fini. Regarde cette pile. tout ça, le fruit de mon travail, plus mes cassettes audio et vidéo. J'y mettrai avec, sans mes enfants, puisque je n'ai pas de famille. Mes héritiers peuvent tout vendre s'ils le désirent, mais ils doivent préserver et garder ça. Adrien Lorieux a 45 ans. Il est grand, mince, les cheveux bruns. Il est écrivain et a beaucoup écrit pour la radio et la télévision. Habite seul, un F3, avenue Jean Jaurès. L'appartement se trouve dans un vieil immeuble 930. Il a été rénové, les murs tapissés en blanc. Les meubles Louis-Philippe viennent de sa mère. Il va au salon s'asseoir dans un fauteuil. Se reposer un moment. Je ne sais pourquoi, mais il fallait que je fasse cela si rapidement. J'ai l'impression, plutôt, je sens un tournant dans ma vie. Je dois classer, mettre de l'ordre. Oui, c'est la fin de quelque chose. Mais de quoi ? Dans l'après-midi, il ne peut plus attendre. Il décide de partir pour Beaujeu dans le Beaujolais. Il met dans des cartons ses écrits et ses cassettes audio et de vidéo. Voilà, c'est fini. Il fait plusieurs voyages pour mettre ses cartons dans la voiture. Il en met sur le porte-bagages et dans le siège arrière. Si j'ai un accident et que ma voiture prend feu, mon neuf partira en fumée. Il entre dans la voiture et démarre. Nous sommes en septembre. Le temps est ensoleillé et chaud. Dehors de Lyon, les feuilles commencent à jaunir et tomber. Arrivé à Beaujeu, sa maison est une vieille ferme rénovée, en retrait du village et de la route. Elle est seule et isolée. Il arrête sa voiture dans la cour de la ferme. Descend de voiture et va ouvrir sa maison. Ça sent un peu l'humidité. Il ouvre les volets du rez-de-chaussée. va vider sa voiture. Il décide de mettre les cartons dans une pièce du haut qui ne lui sert à rien. En montant les étages, il se dit « C'est lourd, je suis fatigué, mais j'ai hâte que ce soit fini. J'ai hâte que ce soit fini. » Demi-heure plus tard, tout est rangé. Il ferme la porte et tourne la clé. En descendant les escaliers, il voit que le soleil d'automne donne une lumière dorée à l'intérieur de la maison. Dernier miracle de la nature avant qu'elle ne meure. Il décide de faire un tour. Mais au bout d'un moment, il se sent là et est obligé de s'asseoir sur un tronc d'arbre qui se trouve allongé sur le rebord de la route. À 21h, il va se coucher. La chambre est meublée de vieux meubles du pays. Une fois dans son lit, sous un bon édredon rouge, car la chaudière n'a pas été mise en route. Le meilleur moment de la journée. Comme c'est bon de dormir. Il s'endort presque aussitôt. La fatigue de la journée, le changement d'air. Dans la nuit, il fait un rêve étrange. Il se trouve une bouteille, une rue du premier arrondissement. Il entre dans une maison délabrée avec un ami. C'est là que cet ami habitait et cet ami veut revivre dans la maison. Mais les pièces sont en état lamentable. Il y a à terre des objets bizarres, un matelas rouge, du plâtre, tout est délabré. Il trouve assis dans une pièce une vieille femme en noir, assise sur une chaise. Elle tricote. Adrien lui dit « Il veut retourner vivre ici, mais c'est impossible, tout est en ruine. » En disant cela, Adrien a mal, car c'est comme si c'est lui qui veut revenir et vivre ici. C'est comme s'il veut revivre les souvenirs qu'il a eus dans cette maison. Revivre ce qu'il a aimé, mais c'est impossible, tout est mort. Alors, il part seul, en laissant son ami, la vieille dame, va au hasard devant lui. sur les quais de Saône. Là, il se trouva un endroit où les quais se transforment en port. C'est lugubre à en mourir. Adrien a une impression d'angoisse. Il se dit, on se dirait retourner en 1950. Il n'a pas envie de rester là. Il veut qu'une seule chose, c'est de retourner vers la maison des Lavrés. Mais qui est la maison qui a vécu et aimé avec son ami? Alors, il s'envole, il retourne dans la maison, mais il a honte d'être là-bas. Elle est toujours délabrée. Il a l'espoir de la retrouver telle qu'il l'avait connue. Il entre dans la pièce et dit, non, je ne peux plus y vivre. On ne peut pas retourner en arrière, malgré notre désir. Le passé est le passé. Il quitte la maison, qui se dégrade de plus en plus. Une angoisse si très fort le prend, que ça le réveille. Sursaut. Il s'est réveillé en sursaut. Il ne sait pas pourquoi, mais malgré l'atmosphère angoissante de ce rêve, il le regrette. C'est comme les souvenirs, même mauvais, que l'on ne veut pas oublier, car ils ont eu une importance capitale dans notre vie. Les oublier, malgré la douleur qu'ils nous apportent, c'est comme si on perdait un œil. Et le rêve l'a fait retourner dans la maison où il a le plus aimé. La vie n'aurait pas pu le faire. Seul le rêve le pouvait. Combien de fois je souhaitais revivre ce que j'ai vécu là-bas. Après avoir dit ceci, il se rendort. Mais il n'arrive pas à replonger dans le monde des rêves. Non, ce n'est qu'un trou noir. Au bout d'un moment, il entend dans son trou noir un petit bruit, comme des pas. Ce bruit, au bout d'un moment, devient angoissant. Il veut se réveiller pour savoir ce que c'est que ces pas. Après des efforts, il se réveille anxieux, inquiet. Il sent une présence, car ses pas sont vraiment des pas. Mais il est paralysé par la peur et n'ose pas sortir de son lit. Il cherche seulement à savoir d'où cela provient, avec la peur de savoir à qui sont ses pas. Au bout d'un moment, il se rend compte que le bruit provient d'en haut, du plafond. En haut se trouve le grenier et la pièce à débarras où il a déposé ses papiers et cassettes. Il se demande qui ça peut bien être, mais n'ose pas sortir de son lit. Un moment, le bruit s'est arrêté et lui, épuisé, est retourné dans le trou noir. Le lendemain matin, il se réveille la tête lourde. Il a les membres raides et a des difficultés à se lever. C'est en prenant son petit déjeuner à la cuisine qu'il se souvient du bruit de la nuit. Je vais voir au deuxième pourquoi il y a eu ce bruit de pas. Une fois qu'il a pris son petit déjeuner, il monte à l'étage. Au deuxième, il ouvre la porte qui donne au grenier. Elle est presque vide. Un vieux matelas à terre, une chaise bancale et une malle en bois. Il entre. Et voit que sur la malle se trouve un trognon de pain et une boîte de sardines ouverte. Il y a quelqu'un ? Il regarde autour de lui. Tout à coup, la porte qui est derrière lui claque. Il se retourne en sursaut et court sortir du grenier. Le couloir est vide, les escaliers aussi. Il y a quelqu'un ? Il descend les escaliers. Regarde à tout hasard au premier dans les chambres. Au rez-de-chaussée non plus. Il a dû y avoir un courant d'air qui a fermé la porte. Il retourne à la cuisine laver son verre. Une fois fini, il va s'asseoir au salon. Quelqu'un a mangé dans le grenier. Et c'est pas cette nuit. Qui celle-là peut-il bien être ? Où est-il ? J'aimerais être sûr qu'il soit parti. J'ai regardé de partout, sauf dans la pièce où j'ai rangé mes écrits. Il faut que j'aille voir. Il se lève et sort du salon. Malheureusement, la porte où il a mis ses papiers est fermée à clé. J'ai bien cru avoir laissé la clé dans la serrure. Elle est peut-être tombée à terre. Il regarde à terre, secoue la porte. Dites-vous, ouvrez, ouvrez. Ouvrez. Pas de réponse. Et au moment où il va prendre la poignée pour la secouer, il est pris de panique et descend les escaliers. Il retourne s'asseoir au salon. Je me sens fatigué, fatigué, fatigué. Il s'est réveillé, l'esprit embrouillé, n'est pas sorti de la journée, n'avait goût à rien. Essayer de lire ou d'écouter de la musique, mais rien ne lui plaît. Il a l'esprit brouillé, brumeux. Après avoir mangé un petit potage en sachet, il est allé se coucher. Dans la nuit, il est encore réveillé par des pas au-dessus de sa tête. Pas sortir de son lit, car il a peur. Que m'arrive-t-il ? Je n'ose pas. Un quart d'heure, il réussit à sortir de son lit et à aller jusqu'à la porte de sa chambre. Bon, il faut que je sache. Allons-y. Il ouvre la porte. On entend aussi dans le couloir le bruit des pas, bruit sourd. Irréel. Ce bruit lui entre dans son corps. Il a l'impression qu'il pèse une tonne. Il éclaire et monte à l'étage, tremblant, en se tenant à la rampe. Là, il entend le bruit, sourd, insupportable. Derrière la pièce où il y a ses papiers, frappe à la porte. Qui êtes-vous ? Le bruit continue. Ouvrez ! Ouvrez ! Le bruit continue. Il essaye de pousser la porte. Mais ses bras lui font mal. Et il n'y résiste pas. Le bruit des pas se font de plus en plus fort. Et il sent qu'ils sont derrière la porte. Il panique et descend les escaliers. Une fois dans sa chambre, qu'il a fermée à clé, il se couche en s'enfonçant sous les couvertures. Le bruit, petit à petit, disparaît. Adrien, épuisé, s'endort. Le lendemain matin, il retrouve la cuisine sans dessus-dessous. Il faut que je prévienne la police. Non, après, il range les affaires qui sont à terre et retourne au salon. Et se met dans son fauteuil. Lorsqu'il se réveille, il fait déjà nuit. J'ai dormi tout ce temps. Est-il encore à l'étage ? Il se lève difficilement. Et éclaire. Tiens, où est passé le tableau sur le mur ? Il me l'a pris. et il sort de la pièce. Il regarde la montée des escaliers. Il me largue. Il monte les escaliers avec peine. Ses jambes sont lourdes. Arrivé devant la porte, elle a la clé dans la serrure. Tu me nargues, c'est ça. Il met la main sur la clé. Mais il ne sait pourquoi. Quelque chose lui dit que ce n'est pas encore le moment d'entrer. Et il redescend. La nuit, il entend toujours des pas. Le matin, il retrouve des objets disparates, des restes de manger, un crouton de pain dans les escaliers, une boîte de conserve. Des objets disparaissent aussi. Adrien ne monte plus au deuxième. Il ne sort pas de la maison, reste frustré à attendre. Il mange très peu, ses forces s'amenuisent, sa vue baisse. Au fil des jours, il devient presque indifférent au désordre de la maison. Car de jour en jour, elle se dégrade. On s'enlit, casse, dérange, sans scrupule. Chose étrange, il n'y a qu'en-dessus de sa tête qu'il entend les pas. Il ne les entend pas ailleurs. Et il n'entend pas non plus les objets déplacés ou cassés. La journée, Adrien ne fait rien. Regarde avec indifférence autour de lui et attend même la nuit pour entendre les pas, pour entendre les pas. Certains jours où il est plus vigoureux et lucide, il se sent épié. Regarde au plafond et crie. Tu m'épies, tu me nargues. Il se met à courir dans toute la maison. Il ne sait plus quel jour nous sommes et son horloge n'a pas été remontée. Il ne lui reste plus pour s'alimenter que des boîtes de conserve qu'il ouvre avec un ouvre-boîte au hasard. Un matin, l'ouvre-boîte a disparu. « Tu me l'as pris. Tu veux me faire mourir de faim ?» Alors il prend dans le tiroir de la cuisine un tournevis et un marteau pour ouvrir sa boîte de conserve. Ouvrir une boîte de conserve, cela lui prend un temps interminable. Il s'essouffle, se fatigue. Il y a de la sauce, elle gicle au visage. De partout. Et une fois qu'il a fait une entaille suffisamment grande pour y introduire une fourchette, il n'a plus d'appétit. Alors il mange la moitié de la boîte et la jette. Les ordures s'entassent sous l'évier de la cuisine et ça sent mauvais. Il ne sait pas pourquoi, mais il ne sort pas de la maison. Rien ne lui en empêche. Il pourrait même aller chercher du secours avec sa voiture. Mais non, il reste là, avec cette chose invisible. Un jour, assis dans son fauteuil, il réfléchit. Qu'est-ce qui m'a poussé à revenir ici? Pourquoi ai-je juste besoin de prendre toute mon œuvre? Les objets disparaissent un à un. Bientôt, il ne me restera plus rien. Tout me quitte. Il ne me restera plus qu'un souffle de vie. Je ressens ce que ressentent les personnes qui voient leur fin approcher. Mais non, je peux encore réagir. Ce n'est pas lui qui décidera de ma fin. Mais il ne réagit pas. Il reste enfermé avec l'autre. L'autre qui lui enlève tout petit à petit. Un après-midi, il entend frapper à la porte. Il n'y fait pas attention, mais on frappe plus fort. Il va ouvrir. La lumière du jour lui fait mal. C'est une femme dans les 30 ans, habillée d'une robe blanche. Elle est grande, mince, blonde. « Bonjour, Adrien. » Il est tellement abasourdi qu'il ne répond pas. « Je passais devant la maison et j'ai vu ta voiture. » Elle voit sa mauvaise mine. « Tu n'es pas bien ?»«
Oui, ça va. Bonjour, Charlotte. »«
Ça te dirait de passer l'après-midi avec moi ?» Nous irions au restaurant et ce soir je t'emmène à une petite sauterie que fait une de mes amies. Qu'en dis-tu?
C'est-à-dire que...
Oh, je t'en prie, accepte tout simplement. Pas de cérémonie entre nous.
Bien. Mais il faut que je fasse un peu de toilette. Entre.
Elle entre et il ferme la porte. Il fait sombre et ça sent mauvais. Elle voit que c'est presque vide.
Oui, je fais quelques travaux.
Il la fait asseoir sur le fauteuil. Il va faire sa toilette. Une demi-heure plus tard, ils sont sortis de la maison, montent dans sa voiture, qui est une décapotable blanche. Je connais un petit restaurant, pas très loin d'ici. Ça fait longtemps que tu es de retour.
Oui, je ne sais pas au juste.
Que tu as mauvaise mine. Tu as bien fait de venir. Le grand air te fera du bien. Ils arrivent au bout d'une demi-heure au pied d'une colline boisée où se trouve un grand restaurant. Elle gare sa voiture. Et ils sont rentrés dans le restaurant. C'est un restaurant à plusieurs étages. Le maître d'hôtel les reçoit et les guide à l'étage du haut. Tout est très luxueux. Les serveurs sont en habit noir, papillon et chemise blanche. Le couvert est impeccable. De grandes baies vitrées montrent un paysage boisé. Charlotte lui dit : Ce restaurant, c'est école hôtelière. Tu vois ? Ce ne sont que des petits jeunes gens qui nous servent. C'est pour cela que tout est impeccable. Il ne manque pas une pièce au couvert et le service y est parfait. C'est Charles qui m'a fait connaître ce restaurant. Il y va souvent car il trouve les serveurs mignons. Certains n'ont que 15-16 ans. C'est cochon. Ils seraient capables de les draguer. Ils ont commencé leur repas. Tout est très beau, mais Adrien n'a pas d'appétit. La lumière du jour, ce luxe, cela lui fait trop de changements. Et puis, avoir une personne auprès de soi qui vous parle, alors que l'on a passé des jours ou plus des semaines tout seul ou avec l'autre, cela gêne. Il se dit même que l'autre est moins pénible qu'elle. Tu ne parles pas, Adrien? Ça ne va pas.
Si, ça va. Ça va.
J'ai lu ton dernier roman. Comme il est triste. Il est même lugubre. On dirait qu'il a été écrit par un vieillard près de sa fin.
C'est peut-être que je suis survenu un homme sur sa fin.
À ton âge, ce n'est pas possible.
Pourtant,
tu déprimes, voilà tout. Tu as dû trop travailler ces derniers temps. Mais du repos, voir des amis, et le moral reviendra vite. Après le repas, où il n'a presque rien mangé, ils sont allés se promener dans les bois à pied. C'est elle qui l'a voulu pour qu'il puisse profiter du beau temps. Charlotte est une de ses anciennes maîtresses qui est devenue, sans qu'il s'en rende compte, une amie. Un matin, l'amour physique s'est transformé en affection. Elle a une maison pas très loin de la sienne. Charlotte est propriétaire d'une galerie de tableaux à Paris. Et ses clients sont presque exclusivement américains. C'est une femme du monde, mais qui reste simple. Puis, vers 18h, après s'être arrêtée dans une pâtisserie, prendre un café et manger quelques gâteaux, elle l'a menée chez son ami.
Tu verras, le dîner est très simple. À sa soirée, il n'y aura qu'une vingtaine de personnes.
Adrien n'a pas envie d'y aller, mais il se laisse mener par Charlotte pour ne pas l'attrister. Odile a une grande villa toute blanche avec une piscine devant la maison. Lorsque Charlotte garde Odile sort aussitôt. Elle est grande, mince, brune, porte une longue robe d'intérieur rose. Elle leur dit
« J'ai tout de suite reconnu votre voiture, Charlotte. »
Les deux femmes s'embrassent.
« Je présente Adrien Lorieux. Enchanté. J'ai lu tous vos livres. Ils sont magnifiques. »
« Peut-être est-ce que le dernier est-il un peu trop triste. Venez, entrons. » Elle les mène au salon. Grande pièce claire, grande baie vitrée, fauteuil en cuir blanc, table basse en glace transparente, des vases blancs énormes remplis de bouquets de fleurs d'été. Elle leur sert à boire et des glaces. Puis, les deux femmes parlent de choses et d'autres. À 20h, les invités commencent à arriver. On a installé une table devant la piscine, allumé des lampions et une chaîne envoie de la musique. Odile va d'un invité à l'autre, Charlotte aussi, mais garde un œil sur Adrien qu'elle ne trouve pas bien. Adrien essaye de faire bonne mine, mais se sent pas dans son élément. Il a envie de rentrer.
Regarde derrière toi.
Ce n'est pas pour moi tout cela. Je suis de trop ici.
Je t'avais pas menti.
La nuit avance. Adrien a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Son oreille cherche un bruit, quelque chose dont il a l'habitude. Charlotte veut le faire danser.
Non, je ne veux pas. Je suis trop vieux.
Ne sois pas fou.
Vieux, toi. Laisse-moi rire. À moins que tu sois amoureux.
Elle sourit.
es-tu amoureux de la mort ?
Elle le tire au milieu des danseurs. Cette phrase l'a marqué. Il se dégage et se sauve en courant. Elle lui court après. Odile, qui les a vus, la rattrape et lui dit :
Venez ici.
Laisse-le. Il a peut-être besoin de solitude. Tu sais, les artistes sont étranges.
J'ai trouvé une photo.
Nous vous a fait des confidences.
J'aime pas du tout cet endroit.
Ah, mais c'est la province ici. On finit par s'y faire.
Vous n'êtes pas du tout comme ça, vous.
Moi, je suis pas d'ici.
Après une heure de marche dans la nuit, il est enfin chez lui. Il n'entend pas le moindre bruit. Il lève la tête et dit : Je suis de retour, tu vois. Et il est clair. Dans son lit, il s'est endormi. Puis, il a été réveillé par les pas. Et là, il s'est rendu compte que le bruit de ses pas va au même rythme que son corps. Tu es toujours avec moi. Tu as raison de tout m'enlever. Je dois tout quitter. Calmement, il se lève et sort de la pièce. Toujours ses pas, longe le couloir, monte à l'étage au-dessus. Toujours ses pas. S'approche de la porte. Met la main sur la clé. Ouvre la porte. Le bruit. Le noir.
Je sais que tu es là. Je suis là.
Il entre dans la pièce. Les pas s'approchent de lui.
Tu es là. Tu es la mort.
Il sent les pas tout près de lui. Un coup sur la tête. Est tombé. Ah.
Ah.
Manu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, L'inconnu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVR.